Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette fraude-là, les montants que moi j'ai fait perdre à l'État français et aux Européens, c'est la plus grande fraude de tous les temps, tous pays confondus. Parce qu'on a toujours dit la plus grande fraude de tous les temps, c'est Bernard Madoff, okay, par rapport au montant. Madoff, c'est 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars, à l'époque, ça fait à peu près 40 millions d'euros, grosso modo. Mais on est sur une période, Madoff, il a ouvert sa société en 1962. C'est-à-dire qu'il a fait une pyramide de Ponzi pendant une quarantaine d'années, plus de 40 ans, pour à la fin arriver à un résultat pareil. L'affaire de la taxe carbone, c'est 5 ou 7 milliards sur une année et demie.
Vous avez peut-être vu sur Netflix le documentaire « Les rois de l'arnaque ». Souvenez-vous, il racontait l'escroquerie de la taxe carbone qui a fait perdre au moins 1,6 milliard d'euros en 2008-2009 à l'État. On y découvrait quelques personnages hauts en couleur et un autre, plus discret, plus en retrait. Grégory Zaoui, dit le cerveau, a pensé, initié, balisé cette fraude internationale. Dans cet épisode et les prochains, nous allons avec lui parler de l'affaire, des années de prison qui ont suivi, et aussi de ce qui motive un homme à prendre de tels risques pour de l'argent. L'argent a-t-il la même saveur quand il est illégal? Le jeu en vaut-il la chandelle? Quand on possède d'un coup des millions, on en fait quoi? Et aussi, n'est-on escroc ou le devient-on? Et pourquoi en fait? Bonne écoute!
Aujourd'hui, on va parler d'argent avec Grégory Zaoui. Grégory, on te connaît notamment parce que tu apparais dans un documentaire Netflix sorti récemment qui s'appelle « Les rois de l'arnaque » et qui revient sur l'arnaque à la taxe carbone. Tu as 50 ans, on te rencontre, Laurence et moi, à Paris. Est-ce qu'on peut savoir, déjà pour commencer, Grégory, avant de revenir sur une carrière qui t'a fait gagner des centaines de millions par une arnaque assez magistrale, où t'es né? Qui c'était tes parents? D'où tu viens?
Alors, je suis né à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3. J'ai grandi à Pantin et mes parents sont des gens qui sont d'origine d'Afrique du Nord. Voilà d'où je viens et j'ai grandi à Pantin jusqu'à l'âge de mes 25 ans, je crois, pour après vivre à Paris et à d'autres pays où je me suis installé.
Ils faisaient quoi tes parents?
Alors, ma mère était mère en foyer pendant très longtemps et puis après, elle s'est mise à travailler quand j'étais adolescent. Elle était commerciale dans le mobilier de bureau et le mobilier informatique. Et mon père, il a fait par contre beaucoup, beaucoup de métiers. Il a été cordonnier. Ensuite, il a été boucher. Ensuite, il a été coupeur en confection. Ensuite, il a été gestionnaire d'une salle à Paris, la salle du Globo, boulevard de Strasbourg. Il était aussi traiteur. Puis après, il a été restaurateur. Et en fin de carrière, il a été transporteur. Où il travaillait exclusivement pour moi, puisqu'il transportait tout à travers l'Europe, mes téléphones mobiles que je vendais à travers l'Europe. Et comme j'avais énormément de vols, je lui ai confié ce travail.
Et donc il a bossé toute sa vie, on parle d'un mec.
Ah oui, complètement.
Ouais. Vous viviez bien? Il y avait beaucoup d'argent à la maison?
Pas du tout.
C'était confortable?
Non, on était, il y avait beaucoup d'amour. J'ai été, je pense, avoir une très bonne éducation qui m'a permis d'accéder à certaines choses que les études m'ont pas permis d'accéder, parce que j'en ai pas fait. J'ai bac moins 3. J'avais pas d'argent, je manquais de rien, mais c'était pas assez pour moi.
Est-ce que vous parliez d'argent à la maison?
Est-ce qu'on parlait d'argent? Non, pas spécialement. Pas spécialement. On en parlait quand on jouait au Monopoly. C'est un jeu que j'aimais, que j'affectionnais beaucoup. Ouais. Ça et les échecs pour d'autres raisons. Mais le Monopoly, ouais, parce que la vie, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Hein. Je rêvais de devenir président de la République quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent. C'était pas pour l'argent. C'était pour... Parce que, bon, en général, on s'enrichit pas quand on est président de la République. Puis après, non, j'ai fait... Enfin, en parallèle, je faisais des affaires.
T'as commencé très tôt à faire des affaires, en fait.
Ouais, à 13 ans, ouais. À 13 ans, j'ai commencé à faire des affaires.
À 13 ans, tu vends déjà des trucs.
Mmh.
Tu vends quoi ?
À 13 ans, je vends des jeans Levi's. Des jeans Levi's que j'achète chez le beau-père d'un copain à moi, qui a la licence Levi's de tout le deuxième choix, ce qu'on appelait l'irrégulier à l'époque, de la marque Levi-Strauss. Et je m'approvisionne chez lui, je les vends à l'école.
Donc t'as l'idée à 13 ans, c'est-à-dire à un âge où normalement on va à l'école, on fait des trucs d'enfants.
Mais moi, l'école, c'était mon terrain de jeu. C'était pour moi ma source, il y avait tous mes clients, ils étaient à l'école.
Et tes parents le savaient ?
Ça m'est même arrivé de vendre des pantalons à des professeurs, pour vous dire.
Et ouais, tes parents, ils étaient au courant que tu faisais déjà du commerce ?
Oui, complètement. Ouais. Il y avait un deal légal. Hein. Puis dans la vie, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé.
Et tu faisais quoi avec ton argent à 13 ans ?
Alors, ce que je faisais avec mon argent à 13 ans, je m'achetais des très beaux vêtements à l'époque. J'ai eu mon premier scooter à 14 ans qui était magnifique. C'était tout neuf, il était. Je l'avais fait customiser, personnaliser. Je voyageais, j'allais aux États-Unis beaucoup. Je me suis acheté mes premières Weston.
Tu vivais quasiment comme un grand.
J'avais une autonomie financière très jeune, très tôt, ouais.
Et tu dépenses en plus. Tu mets pas de côté, tu dépenses, tu.
Je dépense, j'avais un peu de côté, mais je me fais plaisir. Quoi. Quand on est adolescent, qu'est-ce qu'on veut s'acheter ? Aujourd'hui, c'est les baskets qui valent très cher. Là. Enfin, moi, j'arrive pas à comprendre. À mon époque, c'était d'avoir des Weston, c'était s'habiller en Marité François Girbeau. C'était les marques top class de l'époque. Ouais.
À quel âge t'arrêtes l'école ?
J'arrête d'aller à l'école à l'âge de 14 ans. Oui. À la suite d'une phobie scolaire. J'ai certains professeurs qui... Enfin, c'est pas la raison primaire, enfin, majeure, mais qui m'ont un peu écœuré l'école. Et j'avais une volonté très, très forte de gagner l'argent, d'avoir de réussir financièrement.
De réussir, carrément. Tu t'es très vite dit...
Ouais. Réussir dans la vie, mais pas sa vie. C'est pas la même chose.
C'est quoi la différence ?
La différence, c'est que réussir sa vie, ça ne veut pas nécessairement vouloir dire devenir riche, avoir beaucoup d'argent.
Toi, tu voulais devenir riche ?
Ouais, à ce moment-là, oui. Je voulais réussir dans la vie, socialement, financièrement, oui.
Tu avais des modèles ?
Bernard Tapie, ça a été un modèle. Longtemps, ouais, je pense.
Le boss.
À cette époque-là, ouais, c'était un peu... il faisait rêver beaucoup de gens. Hein. J'avais 13, 14 ans. C'était la personne, quand on parlait de lui, qui rassemblait, enfin qui... C'était un emblème de la réussite. Ouais.
Donc là, on est dans les années 80,
ouais.
T'es toujours à Pantin.
Ouais.
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 Et t'as cette vie de grand, entre Paris, les États-Unis, les
ouais,
cours à domicile.
Je pars aux États-Unis, mes premiers voyages aux États-Unis, je les fais en Floride, avec quelqu'un que j'emmène avec moi qui est majeur, qui a 18 ans, 18 ou 19 ans il avait à l'époque, il était plus grand que moi, pour pouvoir, parce que j'importais des voitures que j'achetais aux États-Unis, que je revendais en France aux enchères, et j'avais besoin de quelqu'un qui conduisait, qui avait le permis de conduire. Moi, ayant 15 ans, une quinzaine d'années, je ne pouvais pas conduire ces voitures-là. Donc j'organise tout ça, je fais mes voyages, qui durent à peu près 3-4 jours à chaque fois en Floride, et j'importe mes premiers véhicules en provenance des États-Unis.
C'est que du cash, tu touches que du cash quasiment à ce moment-là.
Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, nous sommes en 84, 85, 86, il n'y a pas de problème avec le cash à cette époque-là. Vous savez, les lois, la loi anti-blanchiment en France, je crois qu'elle est de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'elle a été promulguée en 1998 ou début 2000. C'est-à-dire qu'avant ça, vous pouviez... totalement librement, vous achetez des choses en cash, sans limite, déposer du cash à la banque, sans limite, en expliquant juste que c'était un héritage ou quelqu'un de votre famille, un tonton qui vous a donné de l'argent, et ça ne posait aucun problème. C'est-à-dire, la loi ne... Il n'y avait pas eu de... La loi n'avait pas légiféré là-dessus.
Alors, si ce qui est marrant, c'est que tu penses tout de suite à l'aspect légal. Moi, je pensais juste au fait que tu te retrouvais avec des liasses de billets.
Non, mais même, je vais aller encore plus loin. Je me suis retrouvé avec des sacs de pièces de 10 francs à l'époque. Des sacs que je mettais... Pourquoi ? Parce qu'à cette époque-là, quand mon père avait la salle du Globe, je faisais plusieurs activités. Hein. J'étais multicarte. Mon père avait la salle du Globe et il m'avait confié le vestiaire. L'hiver, ça fonctionne, les vestiaires en général, ça fonctionne que l'hiver. Et puis à cette époque-là, l'hiver était assez rude à Paris. Et je donnais ce vestiaire et je faisais des soirées où je gagnais 2000, 3000 francs en une seule soirée. Et c'était que des pièces de 10. Et un soir même, je suis rentré, parce que c'est du travail, hein, il fallait se pointer à 6h, 18h. Et je rentrais chez moi à 3-4 heures du matin parce qu'il fallait attendre le dernier client.
Tu bossais énormément, en fait.
Je m'en plains pas. Mais c'était beaucoup de boulot. Des heures de présence, c'était pas un boulot intéressant. Il n'y avait pas les smartphones à l'époque. Vous n'étiez pas là en train d'envoyer des textos, d'aller sur Instagram. Il n'y avait pas tout ça. Donc, c'était, je lisais, c'était les magazines, des choses comme ça pour faire passer le temps. Et un soir, ça m'est arrivé, je me rappelle, à 3-4 heures du matin, je me suis fait arrêter à Avenue Jean Jaurès. En scooter, je rentrais chez moi avec mon sachet Weston, avec 3000 balles en pièces de 10. J'ai fini au poste. Et ce qui m'a le plus embêté, c'est qu'ils ont appelé mes parents. Ils ont dû être morts de peur, mes parents, pensant qu'il m'était arrivé un accident. Et étant mineur, mon père était obligé de venir me chercher pour me ramener à la maison et expliquer. Moi, je leur ai expliqué en toute honnêteté, voilà, c'est de l'argent, je leur ai expliqué ce que je faisais avec. Et ils avaient du mal à me croire. Et mon père, il est venu, il a amené les papiers, tout ça. Bon, ça s'est très bien fini. Mon père n'a pas pu m'en vouloir parce que j'ai pas fait de bêtises en soi, mais c'était assez drôle. Ouais. Aujourd'hui, je pense que la même chose, vous êtes poursuivi. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, je crois qu'à cette époque-là, le SMIC, il était à 6000 francs. C'est-à-dire, je gagnais en une soirée la moitié d'un salaire du SMIC. Ouais, non, c'était beaucoup d'argent.
Ça te rendait pas dingue à un moment déjà d'avoir des sommes qui étaient peut-être par mois supérieures à celles d'un cadre?
Bah, l'argent, c'est une forme de liberté. Ça me permettait de m'acheter ce qu'un gamin de mon âge à cette époque-là pouvait avoir envie de s'acheter.
Rêvait de s'acheter même.
Ouais, rêvait de s'acheter sans limite. Mais je faisais pas de conneries. Moi, je suis un garçon, je bois pas d'alcool, je me suis jamais drogué. Vous voyez, j'ai pas fait des trucs illicites ou qui auraient pu mettre ma vie ou me mettre en danger. C'était du plaisir, c'était des beaux objets, un beau stylo, des beaux vêtements, du parfum aussi. Aller chez les grands coiffeurs à l'époque, je me rappelle. J'avais été chez Jacques Desange, avenue Franklin Roosevelt. C'est des choses comme ça. Ouais.
T'accèdes quand même à un monde de luxe assez rapidement,
oui,
auquel tes parents n'ont pas forcément eux accédé à travers leur taf.
Pas du tout. Puis pour eux, c'était pas une motivation. Pour eux, c'était inaccessible tout ça. Tout ce que je voulais, tout ce que j'ai accès, ce à quoi j'ai accédé, ça, pour mes parents, ça a toujours été inaccessible. C'était un truc, on regarde ça à la télé. C'est comme l'émission 50 Minutes Inside. J'ai toujours dit que cette émission, depuis qu'elle existe, pour moi, c'est un pouce au crime. Bon, aujourd'hui, ça a été un peu relayé par les influenceurs. Mais bon, 50 Minutes Inside, c'est quand même un média de qualité supérieure à ce qu'on voit sur Instagram. Pour moi, j'ai toujours pensé que cette émission, c'était un pouce au crime.
Ça donne trop envie.
Ça donne trop envie à certains de faire des conneries pour accéder à ce qu'ils voient à la télé. Ouais.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quand même à cet âge-là, dans l'adolescence, en fait, comment t'es perçu par les gens. Parce que faire rentrer autant d'argent à cet âge-là, c'est pas commun. Donc, comment te regardent tes amis, ta famille, comme un petit, une petite graine de génie du business?
Ouais, comme un malin, ouais. Comme un petit malin, comme un intelligent. Je me rappelle, c'était aussi la grande époque du Rubik's Cube que j'arrivais aussi à faire assez rapidement. Ça avait impressionné pas mal de gens, ça aussi. Comme quelqu'un de malin et d'intelligent, ouais, qui allait réussir dans la vie.
Donc le petit malin tu es, le petit malin tu restes finalement.
Oui, mais même à l'école, hein, j'avais toujours, en expression écrite, j'étais toujours le premier à m'exprimer, à prendre la parole, avoir un avis très précis sur plein de choses. Ça fait partie de mon ADN. Ouais.
Le surnom, je crois qu'on te donne dans le documentaire, c'est le cerveau, non?
Oui, alors, je vous explique. En fait, j'ai été condamné Enfin, le terme exact de l'adjectif qualificatif que pour lequel les magistrats m'ont condamné comme étant l'ingénieur et le concepteur de la fraude à la taxe carbone. Et les journalistes ont, par extension, dit le cerveau. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, vous avez fait l'ouverture en disant ouais, l'escroquerie.
J'ai dit ça, moi ?
Oui. Ah. Vous voyez, l'escroquerie à la taxe carbone. En fait, ce n'est pas une escroquerie. C'est une fraude fiscale gigantesque. Parce que le mécanisme de la fraude fiscale à la taxe carbone, en fait, c'est une fraude à la TVA, c'est un mécanisme de carrousel de TVA. Si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les plaintes sont arrivées dans les bureaux des procureurs du parquet national financier aujourd'hui, enfin à l'époque c'était le pôle financier, puisque le parquet national financier a été créé en 2014 après l'affaire Cahuzac, ils ont dit, effectivement, techniquement, c'est un carrousel de TVA, c'est une fraude à TVA, mais qu'on n'a jamais vu de cette ampleur. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette fraude-là, les montants que moi j'ai fait perdre à l'État français et aux Européens, c'est la plus grande fraude de tous les temps, tout pays confondu. Parce qu'on a toujours dit la plus grande fraude de tous les temps, c'est Bernard Madoff, okay, par rapport au montant. Madoff, c'est 50 milliards de dollars. 50 milliards de dollars, à l'époque, ça fait à peu près 40 millions d'euros, grosso modo. Mais on est sur une période, Madoff, il a ouvert sa société en 1962. C'est-à-dire qu'il a fait une pyramide de Ponzi pendant une quarantaine d'années, plus de 40 ans, pour à la fin arriver à un résultat pareil. L'affaire de la taxe carbone, c'est 5 ou 7 milliards sur une année et demie. Donc si vous faites le comparatif dans l'espace-temps, c'est beaucoup plus important. Donc c'est la plus grande fraude de tous les temps. Et c'est une fraude fiscale dans son mécanisme pur. Et excusez-moi, je reviens là-dessus, parce qu'il faut que je termine là-dessus. Ils ont qualifié ça, ils l'ont passé en escroquerie, en bande organisée, parce que la fraude fiscale sur le code pénal, c'est 5 ans. Donc ils se sont dit, Grégory, OK, avec les avocats qui va nous mettre dans les pattes, tout ça, il est bien mignon, en même pas 2 ans, il sera dehors. Par contre, quand ils l'ont passé en escroquerie, les peines, elles passent de 5 à 10. Et si vous êtes en récidive pour certains, vous passez de 10 à 20. Mais le mécanisme pur tel qu'il est, c'est une fraude fiscale.
C'est un truc auquel tu avais pensé ? Le fait que tu puisses, à la base, si c'était qualifié comme fraude fiscale, pas prendre plus de 5 ans, c'est un truc auquel tu avais pensé ?
Non, moi, j'allais penser qu'il n'allait rien se passer du tout. Et ça a été mon erreur d'évaluation de ça. Pourquoi ? D'abord, les erreurs que j'ai faites, d'abord, la première, c'est de l'avoir fait. Il ne fallait pas le faire. Ça, après, j'ai payé ma dette à la société, je la paye encore, et bon, c'est comme ça. Maintenant, ma deuxième erreur d'appréciation, ça a été de me dire que c'est tellement énorme, puisque moi, c'est la Caisse des dépôts et consignations qui m'a envoyé pendant plus d'un an des milliards d'euros, notamment en Chine, c'est-à-dire que c'était des factures, je leur présentais des factures françaises avec de la TVA française, des factures en millions d'euros, hein. Donc ça veut dire que la TVA était chiffrée en centaines de milliers d'euros à chaque fois sur chaque facture. Et je leur demandais de me payer sur des comptes en Chine, à Dubaï, aux États-Unis. On parle de la Chine, les États-Unis, ce sont des pays qui ne sont même pas signataires du protocole de Kyoto. Et ils envoyaient sans sourciller. Je ne sais pas si vous imaginez. La fraude, attention, quand on parle de 5-7 milliards d'euros, c'est le montant et de la TVA éludée, pas du chiffre d'affaires, parce que c'est 5-7 milliards, en fait, ils représentent que 20% de la...
Totalité.
En vrai, c'est 120%, vous comprenez ? Donc c'est beaucoup plus que ça. Ils ont envoyé des dizaines de milliards d'euros aux quatre coins du monde pendant un an et demi, sans sourciller.
Quand tu dis que c'est la plus grande fraude de tous les temps,
oui.
Est-ce qu'il y a quand même une petite fierté ?
La seule fierté, si je devais en avoir une, c'est de me dire que ça peut, ce que je veux dire, ça peut faire bondir des gens, mais c'est un fait établi, surtout quand je vois la réaction du public. C'est de me dire qu'à cause de ce que j'ai fait, de ce que j'ai monté, cette conception de l'ingénierie de cette fraude. À cause de moi, il n'y a pas de gens qui n'ont pas bien dormi la nuit, qui ont été ruinés comme l'affaire Madoff. L'affaire Madoff, c'est une catastrophe en vrai. C'est des entreprises ruinées, c'est des banques qui ont fait faillite, c'est des gens qui se sont suicidés, qui ont perdu toutes leurs économies. C'est Enrico Macias qui a perdu sa maison à Saint-Tropez. C'est Patrick Bruel qui a perdu aussi beaucoup d'argent, ça, peu de gens le savent. Vous voyez, ça a quand même eu des conséquences.
Tu t'en es pas pris à des particuliers, c'est ça que tu
Jamais.
Veux dire.
Jamais. Mais d'un autre côté...
Tu t'en es pris à tout le monde, mais pas à quelqu'un en particulier.
D'un autre côté, vous allez me dire, je m'en suis pris à tout le monde. C'est la collectivité, c'est l'État, c'est tout le monde. Mais si vous voulez, le mal, il a été dilué par le nombre de contribuables qui payent l'impôt. Mais d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, si demain je remboursais cette somme, est-ce que vous croyez que cette somme va être rendue à tous les aux Français ? Je pense pas. Est-ce que vous croyez que s'il n'y avait pas eu la fraude à la taxe carbone, est-ce qu'on aurait eu plus de masques ? Est-ce qu'on aurait eu les vaccins un peu plus tôt ? Est-ce qu'on en aurait eu plus ? Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je pense pas. Mais je suis pas en train de légitimer ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Il fallait pas le faire. Si t'as à refaire, je le referai absolument pas. Mais d'un autre côté, si la seule fierté que je pourrais avoir par rapport à toutes les autres escroqueries qu'on a pu entendre, parce que les autres, pour le coup, sont vraiment des escroqueries. Ça, c'est une fraude gigantesque qu'ils ont qualifiée d'escroquerie. Les autres, par contre, ont vraiment fait du mal.
Voilà, il n'y a personne qui s'est jeté par la fenêtre à cause de toi.
Jamais personne.
Alors, on va quand même...
Ça n'arrivera jamais. Et j'en suis incapable. Je suis incapable de m'en prendre à une personne. Moi, je suis incapable de... J'avais une maison... À un moment, j'habitais boulevard Voltaire. J'avais une maison avec un rez-de-jardin. J'avais des souris. Le jardin m'amenait des souris dans la maison. Je me suis mis à acheter des pièges, vous savez, autocollants à souris, et je les ai posés avec un bout de fromage. Et la nuit, je les entendais à se coller, ça les collait, je les entendais agoniser. Mais j'ai dit, laisse tomber les souris, j'ai jeté tous les pièges, et les souris, tant pis qu'elles vivent.
À quel moment tu fais un premier business qui s'approche de l'illégalité ?
Le premier business que je fais, que ça prend une idée, c'est toujours dans le même schéma hein, de fraude fiscale, de carrousel de TVA. C'était en 1900... Ah bah ça a été à l'ouverture de l'Europe, ouverture du marché d'espace économique européen, en 93 je crois, où je comprends très vite le mécanisme qui nous permet à l'époque, l'Europe, nous étions 12 pays. Il y a ce fameux système qui est mis en place, qui permet de pouvoir acheter d'un pays de la communauté sans avoir à financer, à avancer la TVA, de l'importer, ces fameuses marchandises, et de les revendre, et d'encaisser la TVA, et de la reverser ou pas la reverser. À ce moment-là, personne ne pige rien. Miracle, Chirac devient président en 1995, il décide d'augmenter la TVA de 2%, donc pour moi c'est encore une aubaine, c'est 2% de plus dans mes marges bénéficiaires, et à ce moment-là, personne ne comprend rien.
Comment tu trouves cette histoire, toi, de TVA ? Tu te rappelles du moment où ça fait ting ? Ah, mais si je l'achète là, et qu'après je me fais rembourser la TVA, pof, je fais 20% gratos.
Je vais vous dire tout simplement, parce que comme moi, à ce moment-là, j'importais des produits d'Asie, et j'importais des chemises en soie, d'ailleurs, d'Asie à ce moment-là, et des jeans Levi's aussi des États-Unis, et j'avais des transitaires où j'avais appris le fonctionnement de la douane. Comment ça fonctionnait. Et de fil en aiguille, je comprends qu'en Europe, on m'explique qu'en Europe, il n'y a pas ces problèmes-là. Ces problèmes d'importation, on devait financer les droits de douane, la TVA, tout ça, c'est quand ça vient extra-communautaire. Mais lorsque c'est à l'intérieur de la communauté, il n'y a pas. Donc, à partir de là, mon cerveau, il est réfléchi. Bon, dans ce cas-là, j'ai qu'à l'encaisser. Et puis personne ne va s'apercevoir de grand-chose. Et puis, ça ne fera pas de mal à grand monde non plus.
Donc, tu commences à monter une affaire d'import-export de téléphone portable, c'est ça ?
De jeans, Levi's. Et le marché du téléphone, il commence juste à prendre. Il y a le GSM. On est tout au début du GSM. On est dans un marché d'équipement. C'est très important de le dire. Qu'aujourd'hui, vous voyez, on approche là bientôt. On va voir l'iPhone 14. Moi, à ce moment-là, où je commence à vendre des téléphones mobiles, c'est les Européens, c'est le continent européen, même américain, qui acquiert son premier téléphone GSM, qui en a jamais eu. C'était un truc de martien pour tout le monde.
C'était un truc du turfu.
Exactement. Donc, on a marché sur... Parce que moi, ce que j'ai toujours cherché à faire, c'est de me mettre sur des marchés où la demande était toujours plus importante que l'offre. Et à partir de là, je me mettais dans... C'est des niches de marché où je me plaçais, où j'étais assez malin pour avoir le sourcing. Et via le mécanisme de cette TVA éludée que je ne reversais pas, je m'en sortais très bien.
Et tu fonctionnais tout seul ?
Ouais, j'étais une locomotive. Les autres, c'était les wagons. Ouais.
Et ce que tu es en train de m'expliquer, en fait, c'est que le moment où tu fais ton premier truc illégal, c'est-à-dire de ne pas rembourser cette TVA et de la garder pour toi, t'as pas l'impression de franchir une ligne.
Si, je le savais. Bon, attention, j'étais aussi plus jeune. Il y avait aussi
T'as quel âge à ce moment-là ?
J'ai 22 ans. Vous voyez, une maturité que je n'ai pas aujourd'hui, vous voyez. Il y a un côté d'inconscient, d'inconscience. Et d'un autre côté, si vous voulez, en fait, dans mes affaires, j'ai toujours, enfin, à cette époque-là, hein, aujourd'hui, c'est d'avoir des affaires, aujourd'hui, j'ai plus le droit d'en faire. J'ai toujours mélangé, si vous voulez, le légal avec l'illégal. Parce que je me suis toujours dit, si je fais que de l'illégal, je vais aller en prison très vite et longtemps. Si je fais que du légal, je vais pas gagner d'argent. Donc, en mélangeant un peu les deux, d'abord, ça me donne un certain statut social. Et en plus, ça passe. Tout le monde y gagne.
Donc, tu t'es dit, en fait, la solution pour bien m'en tirer dans la vie, c'est de faire une juste dose de « on gratte » et une juste dose de « commerce
voilà,
légal ».
De me dire, un jour, il y a...
Pour aller plus vite.
J'avais aussi calculé le risque pénal. Me dire, qu'est-ce que je risquais pénalement à cette époque-là ? Et en fait, comme tout le monde n'y comprenait pas grand-chose, il n'y avait pas encore vraiment de loi là-dessus. Je risquais du sursis, une amende, ça n'allait pas très loin. Et en vrai, moi, tout le long, j'ai gagné très bien ma vie en vendant des jeans et des téléphones portables. Le rapport qualité-prix-prison, il était excellent par rapport au carbone.
C'est un truc que tu avais calculé, en fait.
Mais oui, regardez, qu'est-ce que c'est le rapport ? Moi, ce que j'appelle le rapport qualité-prix, c'est le risque...
Qualité-prix-prison.
Oui, c'est le risque d'année de prison que vous allez prendre par rapport à ce que ça va vous rapporter. Je donne un exemple, là, tout récemment, il y a eu le braquage de la rue de la Paix de la maison Chanel. D'accord ? Ils ont volé pour entre 2 et 3 millions d'euros de bijoux. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces bijoux-là, dans des maisons comme Chanel, ils sont marqués au laser. Ça veut dire qu'ils sont identifiables par tous les spécialistes dans le monde entier. Ça va, tout le monde l'a vu, ce casse-là. Ça veut dire qu'au moment où ils ont fait ce casse, au moment où ils ont volé ces bijoux-là, aujourd'hui, la valeur de ces bijoux-là, sur le marché, ça vaut à peine 10%. Donc on parle de 200 000, 250 000 euros. De ce qu'on a pu voir, ils sont 4. Il y en a peut-être d'autres en back-office, on ne sait pas. Il y en a peut-être d'autres. Donc ils sont 4 à se partager 250 000 balles. D'accord ? Vous enlevez ça, le coût de la préparation, l'achat des armes, et je vous parle même pas du risque qu'ils ont pris de leur propre vie, parce qu'on aurait pu leur tirer dessus, ils auraient pu mourir, du risque qu'ils auraient pu tuer des gens aussi. Et à la finale, le jour où ils vont se faire attraper, ils vont prendre une peine à 2 chiffres, parce qu'en plus c'est une affaire médiatisée, ils vont prendre au bas mot entre 12 et 15 années de prison. Donc 12 à 15 années de prison pour 50 000 balles à la finale. Non mais excusez-moi, c'est n'importe quoi.
Pour être aussi sûr de toi sur les risques encourus par rapport aux bénéfices, j'imagine que tu as dû quand même pas mal étudier la loi, te plonger dans les
affaires juridiques. Alors mon livre de chevet pendant toutes ces années, bon j'avais pas que celui-là, mais c'était le code de procédure pénale à jour. À jour, pourquoi je vous dis à jour ? Parce qu'il sort tous les mois de juillet. D'ailleurs, il va falloir que je m'achète... Enfin, j'en ai plus besoin aujourd'hui, moitié. Mais...
Par habitude.
Ouais, par habitude. C'est-à-dire, il sort en juillet. En juillet, il va sortir le 2023. Je suis devenu un expert en procédure pénale. Et comme je suis joueur d'échecs, c'est-à-dire que j'ai associé ma vision de la stratégie, je l'ai adaptée à la justice pénale, comment on pouvait s'en sortir... En essayant d'avancer ses pions.
Ça, tu commences tôt à avoir cette habitude de lire le code de procédure pénale
non,
à jour.
Non, c'est une fois que je suis pris dedans. Une fois que je suis pris, je suis dedans. Je dis ça y est quoi. Il faut maintenant que je suis dedans, il faut que je m'en sorte. Et pour que je m'en sorte, en 2009, là où je pars en prison pour assez longtemps, je fais défiler. J'ai le balai de tous les plus grands pénalistes de Paris. Pour essayer de trouver, à mon sens, celui qui va, avec qui je vais m'entendre et qui va me comprendre. J'ai eu ils sont tous venus, Pierre Haïk, Hervé Temim, Éric Dupont-Moretti, Thierry Herzog, et j'en passe, et des meilleurs, j'en ai... Bref, une liste, Francis Piner, ils me connaissent tous, je les connais tous, et en fait, je m'aperçois à la finale que mon meilleur avocat, c'est moi-même.
Alors attends, justement, sur les gens que tu rencontres, il y a une vraie question que je me pose. On va revenir hein, un peu chronologiquement comme ça, en faisant des allers-retours. Mais il y a une question que je me pose, c'est très jeune, quand tu commences à nager dans ces zones grises du commerce avec des petits bouts d'illégalité dedans, est-ce que tu rencontres des gens différents, des gens justement qui peuvent verser du côté de l'illégalité ? Ce qu'on voit dans le documentaire, c'est que il y a d'autres gens dans la taxe carbone, notamment, qui semblent plus destinés, par leur parcours personnel, à se diriger vers une zone carrément illégale dans leur parcours. Est-ce que tu fréquentes, du coup, de par tes activités, assez rapidement, des gens qui peuvent franchir cette ligne, ou en tout cas qui peuvent avoir une appétence pour du commerce qui serait illégal, ou des fraudes, ou des arnaques ?
Non, absolument pas. Moi, j'ai jamais eu aucune empathie pour la voyoucratie. C'est quelque chose que j'ai toujours fui comme la peste. J'ai malheureusement connu beaucoup de gens dans mon entourage qui avaient une fascination pour les voyous. Moi, ce qui n'était pas du tout, qui n'a jamais été mon cas.
Tes potes à l'époque, par exemple, quand tu fais le commerce de jeans puis de téléphones portables, tes proches, tes amis?
Non, ils ne sont pas du tout dans l'illégalité. Non. C'est des gens tout à fait normaux, qui ont soit des business. Bon, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est quand j'ai 22 ans quand même, j'achète ma première Ferrari, j'ai 19 ans, j'ai 22 ans, j'ai beaucoup d'argent. Mes copains, ils n'ont pas mes moyens, quoi. Vous voyez, c'est
tu ne changes pas de sociologie parce que tu as plus d'argent?
Non, puisque d'ailleurs, même un jour, c'était en quelle année ? En 2005, je me suis acheté une Ferrari Enzo à l'époque, qui valait, je l'ai payé, je crois, 800 000 euros. J'ai roulé que deux fois avec. Et les deux fois que j'ai roulé avec, c'était pas pour aller faire le beau à Cannes ou à Saint-Tropez ou quoi. C'était pour la déplacer d'un parking à l'autre parce que elle était trop basse et ça cognait.
Mais je me suis dit,
non, je vais vous dire, elle marchait très bien, je n'ai pas eu de problème avec. C'est que je me suis dit, de là où je viens, de l'éducation que j'ai eue, de mon entourage, et s'il y a un décalage, les gens ne vont pas comprendre, c'est pas possible. Là, c'est trop, j'ai tapé trop haut. Je me suis fait peut-être plaisir. J'ai fait un achat, certainement, c'est un achat compulsif. Mais c'est pas possible. Je peux pas faire avaler ça, c'est trop. C'était gênant, je n'y arrivais pas.
Tes copains, c'était qui? Ils venaient d'où? C'était quoi? C'était des copains d'école? C'était des copains de quartier?
J'avais des copains, surtout des copains de ma communauté israélite de Pantin. Ouais. Je me suis fait mes meilleurs amis là-bas. Pas à l'école.
Je voudrais revenir sur ce que tu dis, et quand tu dis « je pouvais pas faire avaler ça ».
Ouais.
Pourquoi ? De quoi tu parles ?
J'étais gêné, j'y arrivais pas.
Ça te gêne, ouais, d'être le flambeur, le mec qui montre qu'il a plein de fric ?
Ouais, ça je pouvais pas. Non, la Ferrari Enzo, pour l'époque, vous vous rendez compte, il y a presque 20 ans, une voiture qui vaut 800 000 euros, ce que ça représente. C'est-à-dire, aujourd'hui, en plus, elle vaut plusieurs millions, cette voiture, parce qu'elle a pris de la valeur. Mais c'était... pour moi, c'était pas possible. J'arrivais pas, c'est pour ça que j'ai roulé deux fois avec, puis j'ai cherché à la revendre, je l'ai revendue à un Allemand.
Donc il fallait quand même faire attention, tu pouvais avoir plein de fric, mais par rapport à, en tout cas, ce que tu ressentais, tu pouvais pas en faire complètement ce que tu voulais, parce que fallait pas avoir trop l'air non plus.
Oui, c'était pas un problème de la justifier, hein, attention, hein. J'ai pas de problème de la justifier de la manière dont je l'avais acquis, c'était pas ça mon problème. Mon problème, c'était l'image que j'allais refléter, c'était trop, je n'y arrivais pas. Voilà. Il y en a d'autres qui me disent « ouais, n'importe quoi, t'es fou ». Fallait en profiter, fallait ceci, fallait cela. J'ai pas pu. D'ailleurs, cette première Ferrari-là, j'avais pas les moyens de l'acheter. Je l'ai acheté à crédit. Et j'avais un mal fou comme ça à me la payer, parce que c'était une sacrée somme à débourser, plus le parking, plus l'assurance et l'entretien. Mais par contre, cette première Ferrari-là, la sensation qu'elle m'a procurée quand j'avais 19 ans de la posséder, je l'ai jamais retrouvée avec aucune autre voiture. Ça a été une sensation que j'ai jamais retrouvée avec aucune voiture. Même pourtant, les autres voitures, quand après j'ai eu le luxe de pouvoir me les payer, et cash en plus, j'avais même le luxe de pouvoir me les payer, d'en acheter 3, 4 sans sourciller, sans avoir à sourciller, j'ai pas retrouvé cette sensation-là.
Et t'as pu avoir l'impression que des fois on t'aimait pour ton fric ?
Oui,
bien sûr. Que ce soit amoureusement ou amicalement ?
Complètement.
C'est quelque chose dont tu t'es méfié tôt, ou ça t'est apparu après ?
Non, je me suis dit... Non, plutôt tard, parce que quand on a 20 ans, c'est pas pareil. Je me suis marié à l'âge de 24 ans, ma première épouse. Non, ça arrive souvent, ouais, que je me suis dit ça, bien sûr. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'amis, en fait. Je suis plus dans la qualité et la quantité. Ouais. Des vrais amis, j'en ai à peine... on les compte sur à peine les doigts d'une main, oui.
Ta femme, elle travaillait ?
Non. Non, elle travaillait pas. Mais j'ai eu, bien sûr, il y a beaucoup de gens, ça fausse les rapports.
Et ça, c'est pas justement un élément à cause duquel tu aurais pu te dire c'est quand même pénible, tout ce fric dans les rapports humains pour avoir des bons rapports humains.
Écoutez, une femme qui est belle, qui est jeune, si en plus elle est connue, j'ai envie de vous dire, elle va pas se mettre avec un SDF. C'est un jeu, c'est le jeu du capitalisme. Quand on a de l'argent, on veut une grosse voiture, on veut une belle femme, on veut être entouré de gens connus, qui brillent pour vous faire briller aussi, à travers eux, ça, vous prenez leur lumière. Mais c'est pas ça qui rend heureux. Pour moi, aujourd'hui, la leçon de tout ça, ce que ça m'a appris, c'est que plus jeune, pour moi, l'argent, c'était une valeur. Et en fait, c'est un tort. L'argent, c'est pas une valeur, c'est juste un moyen. Et si dans la tête d'un individu, l'argent devient sa valeur principale, c'est fini, il est ravagé. Moi, aujourd'hui, pour moi, l'argent, c'est juste un moyen de bien vivre, voilà, de boire du bon café.
Bon, alors, les ennuis commencent quand ?
En 96.
96, là,
après, au bout de même pas une semaine de mariage. Ah. Ben je vais en prison.
C'est vraiment passé comme ça.
Bonne lune de miel, chérie.
Voilà, c'est fini. Vous avez écouté Thune. Enfin, c'est fini. On a presque envie de dire plutôt que ça commence. Car comment Grégory est-il devenu un roi de l'arnaque ? Jusqu'où l'a ramené son appétit pour l'argent et les affaires? La suite de son histoire, riche, très riche, en rebondissements, est dans l'épisode 2, toujours réalisé par Laurence Velli et Anna Borel, post-produit par Frédéric Fortuny, sur une musique d'Ella Bitson. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thune, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant thune podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.